Chapitre 16. Et voilà, nous nous retrouvions dans la tiédeur de la grotte, ayant de quoi manger et boire en abondance, loin des ardeurs meurtrières de la neige, tranquilles en somme, mais sans autre avenir que cette vie détestable de bête souterraine. Alors, une fois de plus, chacun se replia sur lui-même. Mon père, premier touché par le mal du silence, le passa à maman, qui le donna à Inge, qui le transmit à Lala, et ainsi de suite. Mais le vrai malade, c'était Dizir. Il n'était plus que la moitié d'un demi-troll, tant il avait perdu du poids, et la chair riche des poissons n'y changeait rien. Avec ou sans fièvre, il tremblait et claquait des dents. Un liquide blanc s'écoulait continuellement de son nez et de ses oreilles. Je pense qu'il souffrait beaucoup sans jamais se plaindre. « Vous allez bientôt devoir creuser ma tombe, les amis, » plaisantait-il. « Et bonne chance, car le sol n'est fait que de roches par ici. » Maman et Sigrid se relayaient pour lui apporter des soins et le nourrir. Je venais m'asseoir près de lui, très souvent, et lui tenais la main sans rien dire, remplie de compassion. « Je peux te le dire à présent, » articula-t-il un jour. « Tu as toujours été mon préféré. Bjorn, mon meilleur ami en ce monde. » Quand je n'étais pas auprès de Dizir, je me postais au sommet d'un petit rocher à attendre. Les autres vaquaient aux tâches quotidiennes ou se reposaient, tous sans exception mes maris, même la petite Lala, même ma Sigrid, se laissaient gagner par la longueur ambiante. Moi non. Qu'est-ce que tu attends comme ça ? Me demanda Sigrid un jour. Et comme je ne répondais pas, elle me livra le fond de sa pensée. Tu es bizarre. « Quelque chose va arriver, » dis-je alors. « Je le sais, je le sens. » Je me tournai vers elle. « Je suis un morphyre, tu comprends. Un grand destin m'attend dehors. »« Est-ce Godin qui va ouvrir ce plafond de ses propres mains pour me tirer d'ici ? Enverra-t-il un dragon me chercher à sa place ? Je l'ignore. Mais je suis sûre d'une chose, on ne me laissera pas moisir ici. » Sigrid me planta là, sans un mot, l'air mécontent, avant de revenir sur ses pas. Moi, mon destin à moi, tu ne penses qu'à toi, on dirait, et moi, ta fiancée, et nous tous. Est-ce qu'il nous emmènera aussi, ton dragon ? Bien sûr, dis-je, un peu gêné. C'est heureux. Deux jolis plis apparurent sur son front, signe qu'elle réfléchissait. Si nous sortons d'ici, et que nous nous marions, je te préviens d'une chose, reprit-elle soudain en m'attrapant par l'épaule. Je ne serai pas une gentille épouse bien sage. Ça, non. Attendre à la maison pour apprendre un jour que mon mari est prisonnier des vorages, que son bateau a sombré en mer d'Arlande. Non, non et non. J'irai avec toi, mon Bjorn, partout où ton destin de morphyre te conduira. Et j'aurai aussi ma part de gloire. D'accord, dis-je, stupéfait et charmé tout à la fois. Le temps passa, je guettais toujours, et finalement mon attente fut récompensée. Je me tenais à mon poste, Sigrid roulait en boule, somnolé à proximité, au creux d'un rocher. Tout le monde dormait quand le lac se mit à frémir. Un bruit de crécelle envahit la grotte, mêlé à de forts clapotis. « Hé ! M'écriai-je, regardez l'eau ! Il y a quelque chose qui vient !» Mon imagination fabriquait déjà un monstre en forme de cachalot blanc, envoyé par la neige pour nous engloutir. « Attention ! Criai-je ! » Mais aucune apparition ne sortit du lac noir. Harry le pêcheur, éveillé avec les autres, s'avança sur la plage à pas prudents. Des milliers de petits ronds se formaient et disparaissaient à la surface du lac. Harry observa le phénomène d'un air sérieux que je connaissais bien et décréta « C'est un arrivage, parole de pêcheur !» Il nous appela, Gunnar et moi, pour nous inviter à aller au fond de l'eau jeter un coup d'œil. « Une sacrée fête là en dessous !»« Pas de doute, vous pourrez en prendre à la main si vous étiez adroit, et même si vous êtes maladroit. » Il se mit à rire. « Mais qu'est-ce que c'est, Harry ? » interrogeai-je en quittant mes vêtements. « Qu'est-ce que c'est ? » firent ton cœur, maman et Sigrid. Être celui qui sait quand les autres ignorants sont suspendus à vos lèvres, voilà un grand plaisir de l'homme. Harry le savoura encore un instant avant de lâcher le morceau. « Ce que c'est ? Du saumon, pardi ! » Nous avions déjà vu des saumons, mon frère et moi, bien sûr. Pourtant, ceux qui s'entassaient au fond du lac, se frottant l'un contre l'autre, se poursuivant à qui mieux mieux et se roulant dans la vase, cela nous semblèrent très étrange. Les yeux des femelles rougeoyaient comme de la braise. Les mâles, 10 fois, 20 fois plus petits que leurs compagnes, dépassaient à peine la taille d'un lézard. Chose remarquable, ils portaient une barbiche jaune qui ondulaient avec grâce au rythme de leurs déplacements. Les femelles montraient un ventre gonflé, à coup sûr rempli d'œufs. J'approchai la main d'une de ses futures mamans pour lui caresser le dos, et elle se laissa faire. Glissant lentement les doigts vers la queue, je la saisis puis soudain la serrai très fort. Je remontai alors, suivi de Gunnar, qui, lui, avait pris une femelle et un mâle. Nous étions environnés, frôlés sans cesse par des saumons montant vers la surface ou redescendant au fond du lac. Quand il vit nos captures, Harry changea de couleur. « Par tous les dieux, » fit-il, « cette robe nacrée, et puis la barbe du mâle, des saumons terrestres !» Voyant notre étonnement, notre incrédulité, il se saisit de ma femelle et la déposa à terre. « Je n'en ai jamais vu, mais si j'ai raison... »« Regardez !» s'écria Inge l'instant d'après. Le poisson s'était soulevé, six pattes ayant jailli de son ventre. Il se mit à marcher en tortillant le corps, puis à courir, oui, à courir devant nos yeux ébahis. Nous fîmes la même expérience avec le mâle de Gunnar, qui détala plus vite encore. Je me rappelai alors les gravures sur la plateforme de la chambre des géants trolls. Elles ne représentaient pas des truites, comme je l'avais cru, mais des saumons terrestres. On raconte qu'ils vivent sur une île sans rivière, quelque part au milieu de l'océan, nous renseigna Harry. On dit qu'ils se nourrissent de souris, de scarabées et d'œufs de mouettes. À la fin de l'hiver, ils se jettent à la mer pour venir pondre dans les eaux douces du continent. Personne ne pouvait dire où exactement, jusqu'à aujourd'hui. Empruntant des voies inconnues et souterraines, les saumons terrestres avaient choisi l'eau des cavernes, les plus secrètes qui soient, pour déposer leurs œufs. Notre lac avait donc une ouverture cachée. Harry s'empara de la femelle pêchée par Gunnar, la retourna devant nous. Il pinça les contours d'un orifice situé à la base de la queue, faisant sortir une longue tige pointue et vrillée aussi dure qu'un os. « C'est avec ça qu'elle creuse la vase pour enfouir ses œufs, » exposa-t-il. « Pourquoi ces saumons remontent-ils tout le temps à la surface ?» demandai-je. J'avais bien une idée, mais elle me paraissait aberrante. Pourtant, j'étais dans le bon. « Les saumons terrestres ont des poumons, » dit Harry. « Ils viennent en surface pour respirer. »« Comme les baleines, » remarqua ma petite sœur. « Mais oui !» Nous nous regardâmes, Gunnar et moi, car la nouvelle valait de l'or. Si les saumons terrestres obligés de respirer régulièrement parvenaient jusqu'ici, pourquoi ne serions-nous pas capables de suivre le chemin inverse? Il y avait certainement un passage au fond du lac menant à une rivière souterraine, une rivière qui devait bien sortir quelque part. Mon père, qui avait lu dans nos pensées, fronça les sourcils. « Je sais bien ce que vous avez en tête, vous deux, » grogna-t-il. « Seulement c'est la neige qui vous attend à la sortie. La neige et rien d'autre. Nous ignorons où se trouve la sortie, » hasardai-je. Peut-être à des lieux d'ici. Bjorn a raison, appuya Sigrid, voyant où je voulais en venir. La neige n'a pas envahi tout le Fisland. Je ne peux pas le croire. Moi non plus, déclara maman d'un ton ferme. La vie des femmes n'intéressait pas Eric, qui nous planta là pour aller retrouver son coin de plage et ses idées sombres. Gunnar, à ce moment, était déjà dans l'eau. Je pense qu'il voulait découvrir avant moi le passage au fond du lac noir.